L'inconvenant de Gildas Bourdet, une mise en scène de Michel Favre. C'est un cinéma dans le théâtre, une mise en abîme, comme Michel Favre a l'occasion de les courtes pointer depuis déjà plus d'une décennie. Gildas Bourdet, c'est aussi un compagnonnage avec ce dramaturge et metteur en scène également. Un compagnonnage qui tient beaucoup, je crois, à votre fascination pour sa langue, sa capacité d'invention, une langue kaléidoscopique.
Oui, Gildas Bourdet a le grand talent d'écrire et, enfin, surtout la volonté de rechercher dans l'écriture à caractériser les choses. Et il a, une fois encore, dans cette pièce, cherché à écrire des langues. Lorsque j'avais monté le Saperlou, il réinventait totalement le français en lui prêtant des collages de verlan, d'argot, de louchébem, de tout ce qu'on peut imaginer comme patois perdu. Et là, il écrit, chaque personnage porte sa langue ou est porté par sa langue. Et c'est très jouissif à envisager pour prévoir de réaliser un spectacle parce que ça laisse augurer au départ déjà que chaque comédienne, chaque comédien va avoir son parcours fléché, entre guillemets, pour construire son personnage. Et on est là tout de suite conduit vers une caractérisation très forte. Voilà, la pétasse parle le langage pétasse, le gros riche propriétaire parle la langue d'un propriétaire foncier et d'un développeur de biens matériels. Le machinot-chef parle un jargon de machinot-chef, une langue des banlieues. Voilà, il a des caractérisations comme ça. Et chacun, c'est à l'avenant, quoi. Ensuite, il y a le metteur en scène abscon, que j'ai le bonheur d'incarner, qui parle l'abscon avec une maestria assez bouleversante, etc. Et ça va de l'avant comme ça, c'est assez formidable.
Quand on a affaire justement à des personnages qui sont silhouettés, courte pointés de manière très précise par une écriture, presque des archétypes, comment on fait justement pour s'en emparer, pour une mise en jeu du comédien, pour pas aller dans un seul sens qui serait celui de la parodie dans laquelle on peut très vite tomber en montant les textes de Bourdet?
J'ai la naïveté de croire qu'un personnage, c'est pas un manteau qu'on endosse, mais que c'est le résultat de constantes. Ça va faire très intelligent, mais Richard III est Richard III parce qu'il a la constante d'être mauvais, d'être malveillant. Mais il a des moments d'immense tendresse, comme chaque homme dans le monde. On prêtait à Hitler un amour pour les enfants et les chiens. Rien n'est impossible. Le problème, l'analyse finale se fait sur l'ensemble et sur la constante des choses. Ce qui fait que un personnage est méchant ou est gentil parce qu'il a il a de plus grande fréquence à la gentillesse ou de plus grande fréquence à la méchanceté sur le temps donné de la représentation. Donc la construction, elle se fait assez simplement. Moi, mon ambition de metteur en scène n'est pas de révolutionner le théâtre ou de le réinventer, c'est simplement de donner à lire et comprendre les situations. Et donc, allant de situation en situation, les personnages développent leur cours, leur cursus, leur particularité et deviennent de ce fait-là, ils deviennent ce qu'ils sont censés être, quoi. C'est-à-dire qu'ils incarnent les forces diversifiées de la pièce et puis ils incarnent les éléments nécessaires à bien raconter l'histoire.
Et cette histoire, justement, il est question de plusieurs récits entrelacés, de mise en abîme tout d'abord, puisque c'est un film qui se tourne dans la villa d'un riche propriétaire, DiMaggio, interprété par Jacques Michel. Et la personne qui a décidé de tourner ce film, c'est le cinéaste que vous interprétez, Jean-Paul Jasper, une sorte de clone de Jean-Pierre Léo, notamment, puisqu'il y a d'autres éléments que vous rapatriez, et celui du chien narrateur, scénariste et metteur en scène, qui qui intervertissait les répliques, qui arrêtait l'action, qui la relançait dans le Saperlo. On le retrouve aussi dans une partie de votre interprétation, de votre incarnation, me semble-t-il en tout cas, dans cet inconvenant. Donc qu'en est-il de cette mise en abîme avec des résonances multiples dans cette pièce?
Alors, c'est un peu ce qu'on appelle au cinéma le pitch, quoi. C'est qu'est-ce qui se passe, pourquoi sont-ils là, qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, il y a une équipe de cinéma qui déboule dans l'univers richissime des DiMaggio. Ils sont censés tourner leur film autour de la piscine de ces gens. Et puis, la confrontation de ces deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer crée des tensions, crée des quiproquos, crée des accidents. Et ça, c'est ça qui devient drôle. C'est les ressorts basiques de la comédie, quoi. C'est vraiment... Bourdet s'amuse beaucoup des codes qu'il connaît sur le bout du doigt. Il s'amuse à faire des citations. Il y a vraiment des moments, c'est du fédo à fond la caisse. C'est formidable. Il fait un fédo réinventé avec des situations d'aujourd'hui que tout le monde perçoit, tout le monde apprécie, tout le monde reconnaît parce que tout le monde a vu des making-of, tout le monde a vu des reportages sur le film de Catherine Deneuve ou de je ne sais qui la semaine dernière. Donc là, on s'y retrouve tous. Il y a même des archétypes de mots, de noms, de trucs de tournage, le projo, la gamelle, le machin, tout le monde s'y retrouve quand même. Le public, je suis sûr, nous suit là-dedans. Et puis on part dans l'aventure, on assiste à cette rencontre avec un peu au départ la bienséance et puis petit à petit parce que les choses dérapent, les petites micro crispations deviennent des grandes fureurs et puis petit à petit tout se délite et c'est assez formidable à constater et c'est donc du même coup très drôle, c'est toujours très drôle de voir des gens s'engueuler quoi, même au bistrot à côté on a toujours un peu une curiosité parfois même un peu saine, parce que ça nous fait un processus cathartique. Donc là, j'ai pas d'autres prétentions. On fait ça, on le donne à lire, on le donne à comprendre, on le donne à réaliser. On le place dans une situation agréable, puisqu'on est à l'orangerie et qu'on est dans un jardin magnifique. On provoque un peu le spectateur. Les critiques ont vu ça aussi. Ils ont vu que par le fait qu'on joue très en largeur et peu en profondeur, on est dans une espèce de sensation de cinémascope. Alors moi, je l'avais même pas imaginé au départ. J'ai eu très content d'avoir... parfois, les choses nous échappent, et ça, c'est assez formidable. D'ailleurs, comme metteur en scène, moi, j'ai un projet, un film de départ dans la tête, enfin, un film, une imagination de ce que pourrait être la finalité, et puis c'est à chaque fois sublimé par tous mes acteurs et mes actrices. C'est génial.
Il y a aussi quand même, comme dans le Saperlo, même si c'est sous une forme différente, le tragique amoureux, en quelque sorte, qu'elle a. C'est-à-dire que c'est un être qui est effectivement désiré par d'autres et qui, en même temps, ne reniera pas d'une certaine manière sa condition sociale ou d'où il vient. Alors, on peut le voir comme ça. Il n'y a pas nécessairement une lutte des classes très affirmée. Mais en même temps, alors qu'il en a le désir de ces femmes, il est projeté vers elles, il devient un amant magnifique pour plusieurs d'entre elles. Et puis en même temps, on le sent pas très à l'aise avec cette projection comme ça sur les feux des corps et des rampes.
Bah oui, parce que ce qu'il convoite, il le dit, lui, c'est d'être comme vous, monté sur coussin d'air. C'est de n'avoir plus trop de soucis matériels. Après, les soucis philosophiques, ils démontrent bien que les siens, en tout cas, ne sont pas extrêmement profonds. Alors, est-ce qu'il en acquerra quelque chose ensuite? On peut préjuger éventuellement qu'il n'est pas trop idiot, et puis qu'éventuellement ça viendra. Mais dans un premier temps, la seule chose qu'il puisse... convoiter, c'est un bien-être physique, ce garçon. Alors, il est un peu niais là-dessus, évidemment. Et il y a à la fois ça dans l'écriture de Bourdet, c'est que ils sont très caractérisés, tous ces personnages. Ils sont parfois extrêmement négatifs, mais ils ont toujours un aspect positif. Ou alors, ils sont parfois très positifs et, plaf, au moment où on s'y attend le moins, il y a la couleur noire qui ressort. Donc ça, c'est aussi un attrait que je reconnais à cette écriture et qui me plaît, parce que ils ont quand même voilà, DiMaggio, l'archétype du possédant un peu surfait d'ailleurs, un peu ouais, très caractérisé, presque caricatural. Eh ben, il a une grande sincérité dans l'amour qu'il a pour sa fille, finalement. Et moi, je le crois, et j'ai envie de le croire. Je pense que c'est juste que de le croire, parce qu'il démontre qu'il est prêt à faire des efforts, il est prêt à changer, mais dans l'instant, en faveur de son affection. Donc, il a cette très belle facette. Bourdet a écrit des personnages, je le disais à une autre occasion, un peu en Rubik's Cube. C'est-à-dire qu'on a des faces apparemment extrêmement simples à comprendre, et plaf, il suffit de tourner une maniclette et il y a d'autres couleurs qui surgissent, qui sont aussi interpellantes que ce qu'on avait vu au prime abord.
Alors pour le pitch, un groupe de réalisation de cinéma s'installe dans une villa de la Côte d'Azur le temps d'un tournage. C'est un peu la nuit américaine. Il y a d'autres canevas. Hein. C'est la villa de Roland DiMaggio, et sa fille est sourde muette. Alors chez Bourdet, comme chez Novarina, mais d'une autre manière, il y a une manière tout de même de s'approprier beaucoup du répertoire classique. Hein. On peut penser évidemment, on va pas tous les citer, mais à l'Impromptu de Versailles ou Les Fâcheux de Molière, à Illusion comique de Corneille. On peut penser à La petite Catherine de Hellborn de Kleist, enfin pour le rôle de la muette. Justement, comment avez-vous travaillé pour ce rôle de fille muette? Qu'est-ce que vous en avez perçu également de ce personnage, qui est un personnage plus complexe qu'il n'apparaît au premier abord, et c'est toujours très difficile d'avoir pendant les deux, je dirais la moitié d'une pièce, un rôle mutique.
Je suis un lecteur modeste et acharné du répertoire théâtral. J'ai travaillé de manière assez pragmatique, comme je le fais malheureusement peut-être un peu trop parfois, ça pourrait m'être reproché, mais en même temps ça a cette vertu, c'est que prenant les choses pas à pas, construisant les moments l'un après l'autre, et bien petit à petit on arrive à une résolution qui est assez concrète. Donc cette jeune fille est muette et elle observe, elle regarde, elle est là lorsque des choses se disent, lorsque des choses sont vécues et échangées par d'autres. Et nous avons travaillé avec la comédienne dans ce ressenti, dans cette vie à créer pour l'actrice. Ensuite, son génie personnel a apporté la suite des effets d'étrangeté, des éléments de particuliers. Et ça, c'est son génie à elle qui transcende ce travail. Bien sûr qu'il y a des références à Yvonne, princesse de Bourgogne, que j'avais eu la chance d'interpréter avec Frédéric Pollier, à quoi je me suis aussi référé un peu. Bien sûr que le jeu non verbal est un travail en soi pour l'actrice et pour le metteur en scène. Mais voilà, c'est en avançant pas à pas dans les choses et en laissant aussi la latitude aux acteurs de se construire dedans. C'est des travaux difficiles à réaliser pour l'acteur. C'est-à-dire qu'un travail de d'écoute et de regard et de placement dans l'espace requiert énormément de patience, de ténacité, parce que tant que les autres sont pas sûr de ce qu'ils font, on ne peut rien créer. Alors ça, c'est l'expérience de l'acteur que je suis qui parle, c'est que j'ai eu la chance à plusieurs reprises de jouer des rôles d'écoute, et je connais ce cheminement, donc c'est ça que j'ai transmis ou fait transpirer vers l'actrice. C'est patience et longueur de temps font plus que force et rage.
Amen. Alors justement, cette patience, il y a aussi un côté comédia dell'arte, c'est-à-dire que c'est effectivement la langue qui va styliser le personnage, mais c'est aussi cette manière dont cette langue va parfois sortir sur un débit saccadé. Et c'est celui qu'a Déborah Étienne, qui est un personnage prodigieux, qui non seulement sur le coup de l'émotion, mais est atteinte de ce qu'on appelle la phatrasie verbale, plus simplement bègue, par rapport à ça. Et donc c'est un ressort comique extrêmement important qu'elle rend par un jeu, je dirais, extrêmement contenu, voire consistonné, presque tragique, à certains moments donnés. Justement, Déborah Étienne, avec laquelle vous aviez déjà travaillé, puisqu'elle incarnait le rôle de Morviane dans Le Saperlot, là, c'est aussi quelqu'un de dominateur, dans le sens où c'est elle qui donne les sous, mais en même temps, tout semble lui échapper, elle redouble l'anxiété du metteur en scène, elle la déporte d'une autre manière. Comment est-ce que vous avez travaillé avec quelqu'un qui, comme Déborah Étienne, a beaucoup travaillé le clown aussi dans son parcours, le burlesque également, hein, on se rappelle des pétasses, notamment, hein, parce que son registre est un volant assez large, si j'ose dire. Donc, qu'est-ce que vous avez justement voulu mettre en avant? Comment vous percevez un petit peu ce personnage de cette productrice?
Le démarrage, alors on a un peu tous été embarqués dans cette aventure vers le réflexe basique de l'acteur qui veut que assez vite il y ait un petit résultat. Même en répétition, on a cette espèce de fierté, souvent difficile à combattre, que dès le premier moment, on veut montrer ce qu'on peut faire, on veut montrer ce qu'on peut faire de ça, de cette situation, de ce personnage. Et alors, ce qui s'est passé pour nous, c'est que, au niveau du texte, en tout cas, on a assez vite survolé les propositions textuelles de Bourdet pour en faire rapidement des échanges. Et puis, il a fallu, à un moment donné, rebrousser chemin pour revenir à la réelle construction des phrases par Bourdet, parce que ce langage apparemment commun, quotidien, apparemment, de concret, d'aujourd'hui, de contemporain et quotidien, ce langage est bien plus fin que ça. Et pour la question du bégaiement de Camille Chiffonneau, incarnée par Déborah, eh bien, c'est très écrit par Bourdet. Et alors, elle a fait, Déborah, ce travail que nous avions aussi fait lorsqu'on avait travaillé sur le Saperlot, c'est que dans un premier temps, elle s'est immergée dans le bégaiement, parce que c'est un exercice physique, hein, c'est carrément un truc, il faut une énergie folle, c'est comme le fou rire ou les larmes, c'est vraiment un boulot d'acteur très profond. Donc elle a plongé là-dedans, dans un premier temps, à l'impro, comme ça, à l'improvisation, et puis ensuite elle est revenue, elle aussi, à l'écriture de Bourdet et à la scansion, le staccato prévu par lui, parce qu'il est porteur de sens. Et c'est un petit malin, ce monsieur, parce que voilà, papa, et puis tout à coup un mot sort en droit, en direct, et c'est celui qui percute, parce que c'est celui qu'on n'attendait plus. Donc c'est très malin, c'est très fin, et il faut le faire avec cette rigueur là et Déborah est époustouflante là-dessus aussi, parce qu'elle fait une performance d'actrice dans l'investissement énergétique, mais elle fait une performance également de conscience du travail et la technicité de l'écriture.
Est-ce qu'il y a pour vous quelque chose justement de la mouette de Tchekhov aussi dans cette pièce? C'est-à-dire qu'on sent quand même une certaine nostalgie, non seulement du côté du machiniste par rapport à nos gens, par rapport à ses racines qu'il a quittées, tout en ayant toujours la main dans les fils et dans le cambouis d'une certaine manière, mais se trouvant transposé dans un autre monde. On pourrait dire qu'il n'y a pas... Qu'est-ce qui est inconvenant dans la pièce? Il y a peut-être des inconvenants aussi. Chacun, semblerait-il, étant porte-à-faux vis-à-vis de l'autre, hein, ça fonctionne beaucoup de cette manière-là. Donc, parfois, en tout cas, pas systématiquement. Qu'est-ce qu'il en était, justement, par rapport à ce côté, peut-être, effectivement, aussi de non-dit, de, même si l'expression est un petit peu galvaudée, mais que tout se passe pas non plus uniquement dans la langue, dans cette histoire-là.
C'est marrant parce que souvent, ça revient, Tchekhov. Ça revient, aussi, par rapport au dernier acte de la pièce, où les choses partent dans une autre couleur. Alors, c'est pas Nogent, c'est Honfleur. Mais Bien sûr, voilà, voilà. On a l'impression que c'est juste une comédie de plus, que c'est juste une comédie, que c'est les portes qui claquent à la Phédo, que c'est ci, que c'est là. Et puis, paf, derrière, il y a ça. Il y a tout à coup les mânes qui se réveillent et qui ressurgissent des limbes et qui nous font un clin d'œil un peu plus sarcastique et un peu plus tragique. L'issue de la pièce est assez presque triste, oui. Mais en même temps, voilà, c'est le rire, les pleurs, le rire, les larmes, les choses sont voisines, c'est de l'émotion. Moi, je prétends avoir comme tâche, en tant que réalisateur, de donner de l'émotion, de transmettre de l'émotion, de montrer des émotions et raconter, si possible, des histoires. Voilà, mon ambition de metteur en scène est toute là, en fait. C'est déjà pas mal comme boulot.